Dis, on aime l'été. Et nous sommes le 11 juillet 2017. Bonjour à vous toutes et vous tous. Clotilde Saïe au micro de Canal M, mais pas toute seule, entourée de bien beau monde encore aujourd'hui. Maxime Despommerleau va nous faire une présentation de sortie plutôt sympa et le plus inclusive possible, bien sûr, dans la ville de Montréal. On va faire la connaissance de la maison Les Petites Lucioles avec sa directrice Nicole Ouellette. Il y aura aussi Aube Savard en studio qui viendra nous parler de voile adaptée. Et on finira l'émission avec une entrevue de Manon Boisvert qui fait partie de Essor 2. Ça, c'est un organisme qui fait beaucoup pour parvenir à intégrer des personnes en situation de handicap dans des entreprises. Alors, ce sera entrecoupé évidemment de bonne musique et puis certainement de quelques fous rires, en tout cas de beaucoup de sourires. Et encore une fois, on vous souhaite la bienvenue. Bien sûr, on commence avec quelques nouvelles, notamment celle-ci. Le comité exécutif de la ville de Montréal a adopté lors de sa séance hebdomadaire une résolution visant à octroyer un soutien de 50 000 $ à l'organisme Altergo pour le programme d'accompagnement en loisirs de l'île de Montréal visant à appuyer des organismes œuvrant auprès des personnes ayant des limitations fonctionnelles. Les élus ont également accordé un soutien de 8 000 $ à l'organisme Espace Multisoleil pour la tenue du projet Objectif Intégration Loisirs destiné à des jeunes hommes et jeunes femmes vivant avec une multidéficience. Ces soutiens de l'administration municipale permettront à deux organismes établis de compléter leurs activités tellement appréciées par les participants et leurs familles. Ces montants permettent en effet aux personnes handicapées d'avoir accès à des services en compagnie de personnel qualifié. Ils sont précieux car ils permettent de briser l'isolement tout en venant enrichir la programmation de loisirs et de sport de la ville, a indiqué le maire de Montréal, M. Denis Coderre. C'est parce que nous faisons de l'accessibilité universelle notre priorité que nous investissons dans des programmes qui tiennent compte des réalités et des besoins des personnes ayant des limitations fonctionnelles afin de mieux y répondre. Nous souhaitons que ces dernières puissent avoir accès à des services de qualité identiques aux services offerts à l'ensemble de la population montréalaise, indépendamment de leur handicap physique et ou intellectuel, a ajouté Mme Monique Vallée, responsable du développement social et communautaire ainsi que de l'itinérance au comité exécutif de la ville de Montréal. Rappelons que l'organisme Altergo regroupe une centaine d'organismes membres qui offrent des services de sport ou de loisirs sur l'île de Montréal et qui se préoccupent de l'accès aux loisirs des personnes avec une limitation fonctionnelle. Espace Multisoleil a pour mission de permettre à des personnes vivant avec une multidéficience de mener une vie active dans un environnement stimulant, chaleureux et sécuritaire, tout en leur offrant des activités socio-culturelles, de loisirs, de sport et d'éducation qui contribuent au développement personnel. Des chevaux pour aider des jeunes à se concentrer. Les enfants qui ont un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité peuvent maintenant apprendre à mieux gérer leurs émotions en travaillant avec des chevaux. Ça se passe au lac Saint-Jean. C'est un texte de Sarah Pedneault paru dans le ici.radiocanada.ca. Quatre jeunes de 7 à 12 ans participent à ce tout premier cours d'équitation thérapeutique exclusivement destiné à des jeunes atteints de TDA-TDAH. La formation de 7 semaines est encadrée par deux femmes de La Dorée qui ont eu l'idée de mettre à profit la sensibilité des chevaux aux émotions humaines. Le travail équestre permet entre autres aux jeunes d'apprendre à contrôler leur niveau d'impulsivité, à travailler leur sens de l'organisation ainsi qu'à faire face à des problèmes. Si tu es calme, le cheval va l'être aussi. Si tu es énervé, le cheval va peut-être être plus nerveux. Donc, c'est vraiment de sensibiliser les jeunes, même si c'est la première fois que ce cours est donné à l'écurie Lepage, à la, comme un article, doré, plus loin l'adjectif, les parents n'ont pas hésité à y inscrire leur enfant. Axel, c'est un garçon qui a de la difficulté à entrer en contact avec les autres. Et puis ici, tout de suite, il s'est senti dans son élément, raconte la maman d'un jeune, Véronique Bérubé. Il s'agit du deuxième projet de ce type pour Marjolaine Bourque. Elle se sert aussi des chevaux avec des adultes qui cherchent un bien-être personnel. Et rappelons que tout cela se passe au lac Saint-Jean. La grande course de Sylvie Girard, c'est d'après un texte de Simon Roberge paru dans la presse.ca. J'ai les émotions à fleur de peau, a-t-elle lancé peu après avoir franchi la ligne d'arrivée sous les applaudissements de ses proches. Ce n'est pas mon premier 5 km depuis mon diagnostic, mais il est plus significatif que les autres. René McKay, directeur général de l'Association de la sclérose en plaques de l'Estrie, lui avait lancé le défi alors qu'elle agissait à titre de bénévole pour l'événement l'an dernier. Il m'a dit que l'année suivante, j'allais courir. J'avais fondu en larmes et je lui ai dit que je ne serais jamais capable, mais aujourd'hui, je réussis. Elle a d'ailleurs enlacé René McKay après que ce dernier lui ait enfilé sa médaille autour du cou. Madame Girard, qui revient de loin, elle a été 3 semaines en fauteuil roulant il y a quelques années, en plus d'être 1 an sans avoir de sensibilité au niveau des pieds. Ça a été un choc, je ne voulais pas y croire lorsque j'ai eu le diagnostic. J'avais l'impression que ma vie était complètement finie parce que je faisais beaucoup d'activités physiques dans mon ancienne vie. Elle a toutefois repris goût à la vie avec l'aide de ses proches et de l'Association de la sclérose en plaques de l'Estrie. Comment ça marche.net, ça c'est un site français, vous pouvez aller voir ça sur votre ordinateur. Et ces gens-là viennent de nous parler d'une carte qui rend les plages plus accessibles en France. Accéder au front de mer ou se mettre à l'eau quand on est en fauteuil roulant, eh bien, c'est encore mission impossible sur bien des plages et pour faciliter l'accès aux plages aux personnes handicapées, le site handiplage.fr recense sur une carte des lieux recommandés. À Saint-Jean-de-Luz, par exemple, au Pays Basque, la plage de la digue du port met à la disposition du public 3 tire-à-l'eau, des places de parking pour les personnes handicapées et un accès de plein pied à l'océan, des vestiaires aménagés et un abri. Un dispositif qui vaut à la plage un label handiplage de niveau 4. Accueil, accessibilité et encadrement assuré. Et pour trouver tous les lieux susceptibles de proposer ces services aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, le site handiplage.fr livre une carte interactive complète. Y sont recensées les plages en fonction de leur label de niveau 1 à 4, 4 étant le plus exigeant. Alors je vous rappelle que cette carte des plages, on ne sait jamais, peut-être allez-vous partir en vacances en Europe, les plus précisément en France. Peut-être aimez-vous vous baigner, mais peut-être trouvez-vous que les plages ne sont pas assez accessibles. Eh bien, avec la carte de handiplage.fr, vous saurez où aller vous tremper non seulement les pieds, mais aussi tout le reste. Sorties, il y a des sorties, voilà, je vous ai retrouvé, j'ai failli vous perdre. Il y a des sorties vraiment en ce moment faciles à faire. Maxime Despomerleau, bonjour Maxime.
Bonjour Clotilde.
Puis j'aime toujours beaucoup quand vous venez comme ça. Ben, en fait, là, c'est la première fois, mais c'est parce que hors onde, on s'en parle souvent. Maxime est une grande sorteuse. C'est quelqu'un qui fait les festivals, les vas-y le théâtre, et vas-y la danse, et vas-y. Et vous en faites vous-même, hein, Maxime, de la danse en plus. Et donc, on s'est dit qu'une belle fouineuse comme elle, en fauteuil roulant, c'était la personne d'un tout désigné pour venir faire des chroniques culturelles, des chroniques de loisirs, des chroniques le fun, hein, oui. À l'émission Aime l'été.
Oui, puis en fait, pour moi, c'est un peu poursuivre ce que je faisais avec Sortir, oui. Qui était mon émission justement régulière à Canal M et qui a pris fin le 23 juin dernier.
Ben
donc,
oui.
C'est un peu mon moyen de continuer à rester à l'affût de ce qui se passe en culture aussi. Et j'ai quelques petites suggestions.
Allez-y donc.
Est-ce qu'on m'entend bien?
On vous entend très très mal. J'ai envie carrément que vous changiez de micro parce que vraiment,
ça,
là,
hein.
je ne sais pas ce qui se passe, mais vous sonnez cacane, comme on dit dans le jargon.
Est-ce que ça va mieux avec
ah,
lui?
Ah oui, ça va beaucoup
excellent.
Mieux.
Je ne sais pas. Je me suis trompée des petits chiffres.
Non, non, vous...
Je crois que c'est ce qui est arrivé. Mais bon, c'est ma première.
Mais
je vais, je vais savoir me repositionner pour les prochaines. Alors, bon, Montréal, on le sait, c'est la capitale des festivals.
Oui.
Il y en a tellement qui se passent pendant l'été.
Oui.
C'est aussi la capitale des arts du cirque. Et il y a jusqu'au 16 juillet, ça a commencé le 6, la semaine dernière, le Festival Montréal Complètement Cirque, qui vise à mettre de l'avant le cirque contemporain québécois et international.
Mm-hmm.
J'ai relevé quelques spectacles, les têtes d'affiche cette année, à commencer...
C'est pas grave. À commencer par un bol de café qui tombe.
Pour se calmer, Clotilde, j'ai même pas encore
c'est parce que
commencé.
Je suis tellement excitée à l'idée d'aller faire des triples saltos arrière avec les gens du cirque.
Oui, justement. Ben, on aura l'occasion d'en voir plusieurs, justement, entre autres avec les spectacles extérieurs qui sont gratuits, les minutes complètement cirque qui sont sur la rue Saint-Denis et à la place Pasteur face au clocher de l'UQAM. C'est deux fois par jour, tous les jours, donc à 18h30 ainsi qu'à 21h30. Et il y a le spectacle aussi Rouge, qui est le spectacle extérieur à la place Émilie-Gamelin, tous les soirs, donc à 19h30 et à 22h30, une durée de 30 minutes. Ce sont des tableaux qui prennent place à différents endroits sur le parterre, à commencer à l'arrière où les grandes sculptures et les petites chutes, et pour se terminer à l'avant vers la scène, qui est cette année constituée d'une pyramide de containers, et dont la plus haute plateforme atteint 11 mètres. Le spectacle s'appelle Rouge, s'inspire de la couleur de l'amour. Alors, on va retrouver un peu les mythes à la Roméo et Juliette, ainsi que Orphée, rendre hommage à toutes les formes d'amour. C'est un spectacle du metteur en scène Anthony Vénis, et les dates sont rallongées pour le 375e de Montréal. Donc, on pourra aussi le voir du 19 au 23, ainsi que du 26 au 30 juillet. Et j'en profite pour dire qu'on peut se poser aux terrasses du Jardin Gamelin pour profiter du spectacle. Les terrasses qui sont totalement accessibles.
Oui, et ça, il faut le dire, parce qu'il y a tellement de parcs. Moi, je remarque ça, moi qui suis sur mes deux pattes. Il y a toujours deux marches, quelque part. Tu te dis, bah oui, mais comment ils font pour rentrer là? Alors que là, non, c'est vrai que vraiment, Émilie Gamelin, gros effort. Puis alors l'amour, un sujet éternel.
Absolument. Ah. Et donc, en spectacle, en salle, il y a Vice et Vertu des Sept Doigts de la Main qui commençait hier à la Société des Arts Technologiques. 3 heures d'expérience déambulatoire inspirée du Red Light et de l'histoire du burlesque à Montréal. Ça s'inscrit aussi dans le cadre du 375e. Et tous les plateaux, qu'ils soient à l'extérieur ou dans la satosphère, sont aussi accessibles.
Est-ce que vous les avez vus, tous ces shows-là?
En partie,
d'accord.
Parce que ça a commencé un peu cette semaine.
C'est
donc,
ça, hein?
Je vais me rattraper.
Depuis quand vous avez dit ça a commencé?
Ça a commencé le 6
le
juillet.
6, oui,
Par contre, il y a différents spectacles qui se chevauchent.
Voilà.
Et il y a celui-là, un que je vous conseille, Tabarnak du Cirque Alphonse, dont les spectacles s'inspirent toujours du terroir québécois. Et donc, il est présenté à leur sauce à l'atelier.
Rappelez-moi le titre, parce que je trouve que dans votre bouche, ça sonne délicieux.
Ça me fait plaisir. Ça s'appelle Tabarnak.
Ah! Oui, c'est ça, il me semblait.
Et il y a des supplémentaires le 18, 19, 20 juillet prochain. Et je prends quelques secondes pour parler
allez-y.
La Tohu, qui est un des fondateurs de Montréal Complètement Cirque avec le Cirque du Soleil et l'École nationale de cirque, qui se trouvent tous trois dans la Cité des arts du cirque, dans Saint-Michel. C'est une institution qui est un lieu de diffusion, de création, d'expérimentation entre culture, pour le cirque, l'environnement, la terre et l'engagement communautaire, l'humain. Ce sont les trois axes autour desquels ils articulent leurs activités. Moi, c'est vraiment un exemple de médiation culturelle. Ils travaillent beaucoup à créer des ponts entre les communautés culturelles de Saint-Michel. On sait qu'il y a plus de 40 communautés culturelles différentes qui cohabitent dans le quartier. Ils travaillent aussi beaucoup avec des organismes de personnes en situation de handicap qui sont dans le quartier, comme l'AMDI, l'Association de Montréal pour la déficience intellectuelle, Parrainage civique, les Marronniers aussi. Donc, ce sont des groupes qui reçoivent dans les visites La Tohu, c'est un lieu qui est très, très accessible aussi. La salle a différents espaces pour les personnes en fauteuil roulant pour très bien voir le spectacle, dépendamment de la scénographie. La salle dispose aussi du système infrarouge pour malentendants. Oui. Qui a été développée en collaboration avec l'Association des devenus sourds et malentendants du Québec. Et elle honore aussi la vignette d'accompagnement tourisme et loisirs, ce qui fait qu'un accompagnateur ne paie pas son billet, finalement, pour aller voir les spectacles.
D'accord.
Ça agit aussi comme maison de la culture pour le quartier Saint-Michel. Et donc, il y a différentes visites, les lieux sont accessibles et même le bistrot.
On adore ça.
Tout. Alors, c'est vraiment quelque chose que j'invite les gens à découvrir.
Je voudrais que vous nous disiez quelques mots, il nous reste une petite minute, mon ami, sur Dance Machine, ou est-ce qu'on dit Dance Machine?
On dit Dance Machine.
Oh, yes!
C'est une création de la chorégraphe Lee Soufei, qui est basée à Vancouver. Ce sera au Centre national des arts d'Ottawa du 12 au 15 juillet. C'est une installation dont j'ai fait l'expérience au Festival Transamérique en juin. Et c'est une sculpture cinétique. Une installation qui se transforme lorsque les corps bougent à l'intérieur.
Okay.
Alors, je me lance dans une genre de description visuelle. C'est, si on veut, un format cubique, donc seulement les structures métalliques de cubes, avec 64 fils roses vifs qui tiennent des pièces de bambou. Et on peut les tirer, les frotter ensemble et ça va faire varier, en fait, l'installation et interagir avec les danseurs au milieu de l'espace.
Ah.
Et le public est aussi invité à prendre possession des lieux, donc à entrer dans le centre, à céder le centre aussi. Alors, c'est une installation qui sollicite beaucoup les sens, au-delà d'habiter l'espace, le toucher, la vue et l'ouïe aussi, car certains artistes font jouer des pièces musicales ou jouent avec du reverb, des micros.
Donc,
c'est une installation gratuite qui dure environ 5 heures. Donc, on est vraiment appelé à entrer et sortir quand on veut.
Eh bien, merci beaucoup, Maxime Despomerleau. Très, très contente que vous soyez arrivée au bout de votre chronique complètement sèche, alors que moi, je suis complètement trempée de café. Mais tout va pour le mieux, mes amis, et l'émission se poursuit en musique avant de retrouver ma prochaine invitée.
Je sais, I love you, y'a de la rumba dans l'air, le smoking de travers, je te suis pas dans cette galère, ta vie tu peux pas la refaire. Tu cherches des morceaux d'hier, pépère, dans des gravats d'avant-guerre. Casino, c'est qu'un tas de pierres. Ta vie, tu peux pas la refaire. Branche un peu tes écouteurs par ici. La mer est déjà repartie. Le vieux casino démoli. C'est fini. Pépère, t'aurais pas comme une vieille nostalgie de Gilly Gilly Bugatti, de oh la la la, de soirées de gala Riviera. Y'a de la rumba dans l'air, le smoking de travers. Je suis pas dans cette galère, ta vie tu peux pas la refaire. Tu cherches des morceaux d'hier, pépère, dans des gravats d'avant-guerre. Le casino c'est qu'un tas de pierres, ta vie tu peux pas la refaire. Y y a de la rumba dans l'air. Le smoking travers, je te suis pas dans cette galère. Ta vie, tu peux pas la refaire.
On vient d'entendre Catherine qui nous reprenait une pièce d'Alain Souchon, la pièce « Il y a de la rumba dans l'air ».
Merci beaucoup. Merci pour cette désannonce, mon ami. Alors écoutez, le studio est quasiment sec maintenant. Clotilde, votre animatrice, un peu moins, mais c'est pas grave, on va s'en sortir et on va réussir à finir cette émission-là. J'ai très hâte de parler, maintenant que les choses vont un petit peu mieux, avec Nicole Ouellet. J'espère qu'on prononce Ouellet, à moins que ce soit Ouellet. Vous allez me le dire. Bonjour, madame.
Bonjour, ça va bien?
Ben écoutez, oui, ça va bien. On est un petit peu après les pluies extérieures. Là, on est un peu dans la pluie de café, mais on va très très bien, madame. Est-ce que vous dites Ouellet ou Ouellet?
Ouellet.
Ouellet. Alors, madame Ouellet, oui. Vous êtes directrice et directrice aussi des ressources humaines de la maison Les Petites Lucioles, c'est bien ça, à Québec? C'est...
Oui, tout à fait.
Alors, je voudrais que vous nous parliez de cette maison Les Petites Lucioles. J'adore ce titre, hein?
Ah, merci.
Je vous en prie.
Alors, la Maison des Petites Lucioles existe depuis 2008, donc on va fêter notre 10e anniversaire en février 2018. C'est une petite maison qui offre des services de répit à des familles qui vivent avec des enfants polyhandicapés. Donc, ça peut être handicap physique, intellectuel, multiple, trouble du spectre de l'autisme. Et nous, on accueille les enfants qui ont 0 à 12 ans.
Okay.
On dessert actuellement une soixantaine de familles, donc les familles réservent des répits. Le plus populaire, c'est celui de la fin de semaine. L'enfant arrive le vendredi soir jusqu'au dimanche à l'heure du souper.
D'accord.
Et nous, les enfants viennent ici pour donner du répit à la famille. Pendant que la famille se ressource, refait le plein d'énergie, bien nous, on s'occupe de leur petite luciole. Donc, c'est une maison où on fait beaucoup d'activités de stimulation, beaucoup de sensoriel, beaucoup de sorties dans la communauté.
Qu'est-ce que vous faites, par exemple? Allez. Avec ces petites lucioles-là,
alors,
comme
c'est
activité.
Des enfants qui sont très sensibles, comme je disais, à tout ce qui est sensoriel. Donc, des activités où on va toucher, où on va toucher des choses qui sont douces, qui sont froides, qui sont plus dures, plus molles. On va jouer dans l'eau, on va faire beaucoup d'activités avec des sons. On a une salle, entre autres, une salle blanche ici avec de l'éclairage. Donc, on va essayer de stimuler tous les sens des enfants pour les amener à leur plein potentiel. Ça fait partie de notre routine. Évidemment, c'est des enfants qui ont aussi besoin de soins. Donc, il y a toute une partie qui est soins d'hygiène, aide à l'alimentation. Ils sont pris en charge complètement quand ils viennent ici.
D'accord.
Et on essaie de faire beaucoup. Un de nos mandats aussi, c'est de montrer à tout le monde que c'est des enfants qui ont des besoins comme tous les autres.
Absolument.
Enfants. Ils ont juste des besoins particuliers. Donc, on essaie de sortir beaucoup, d'aller dans les services publics, d'aller au parc, d'aller à la piscine, de faire différentes activités. C'est toujours impressionnant pour les gens. On va aller, par exemple, au McDonald's avec les petits repas qu'on va mettre dans un petit mélangeur pour que ça ait une texture facile à manger pour nos enfants. On va aller jusque-là dans les apprentissages.
C'est un apprentissage pour ces enfants-là, mais aussi ça permet à d'autres personnes qui sont peut-être un petit peu moins, qui ont moins l'habitude d'être en présence de tels enfants, de pouvoir voir que oui, tout est possible. Hein?
C'est ça, c'est que ce qui change, dans le fond, c'est les besoins qui sont un peu plus particuliers.
Bien sûr.
Des enfants de 10 ans comme des enfants de 10 ans. Et nous, pendant nos éducateurs et éducatrices sont avec les enfants, on sait que la famille, les frères et sœurs, les parents peuvent passer des moments ensemble, peuvent faire des activités, peuvent dormir,
recharger les batteries
pour être prêts à reprendre la vie après, parce que c'est beaucoup, beaucoup d'attention, beaucoup de soins, évidemment, pour les enfants.
Vous hébergez des petits-enfants handicapés de communauté CRI aussi, je crois, hein?
Oui, oui, on a actuellement 5 enfants qui sont avec nous de communautés du Grand Nord. En fait, le projet de la Maison des Petites Lucioles est venu d'un besoin qu'il y avait dans les communautés. Lucie Bergeron, qui est l'âme derrière le projet de la Maison des Petites Lucioles, a implanté de nombreux CPE dans les communautés autochtones et un des besoins qui était exprimé, c'est ça va bien quand on est au CPE, mais qu'est-ce qu'on fait après? Quand on a besoin de répit, il n'y avait pas de telle maison. Mmh. Et Lucie a eu l'idée de partir un petit projet à Québec pour voir comment on pourrait offrir du répit. Et là, avec un enfant autochtone qui est venu ici, parce que de venir à Québec, ça permet à ces enfants-là d'avoir tous les soins ils ont besoin, d'avoir les services professionnels et d'être scolarisés. Donc, d'aller à l'école, mm-hmm. d'avoir les services d'ergothérapie, physiothérapie. Et en partant le projet, très vite, Lucie a constaté qu'il n'y avait pas de service, notamment pour les enfants de 0-5 ans. Nous, c'est une de nos particularités. On accepte les enfants qui ne sont pas encore scolarisés, donc de 0-5 ans. Et ça a fait boule de neige. Et là, des familles de Québec ont vu qu'on pouvait avoir du répit. Fait que de quelques enfants, on est maintenant à plus de 60 familles qui utilisent nos services.
Wow.
Donc, les enfants en cri ont toujours fait partie de la vie de la maison. Donc, ils sont avec nous en hébergement. Donc, c'est des enfants résidents qui continuent à fréquenter leur famille, à les voir lors des vacances d'été, les vacances de Noël et tout ça. Mais ils reçoivent tous les services dont ils ont besoin.
OK. Et là, tout d'un coup, je viens de comprendre, il y a une minute, quand vous avez parlé de Lucie, les petites lucioles, j'ai dit, ah bon, j'avais pas fait le lien encore. Moi, je pensais juste aux petites lucioles, hein, à ces petites mouches lumineuses qu'on voit parfois à la tombée de la nuit. Mais effectivement.
Vous avez raison, c'est exactement pour ces deux raisons-là.
Voilà. Bon, c'est parfait.
Et
vous avez reçu un don, je pense, important de la Fondation des médecins spécialistes du Québec récemment.
Oui, alors la mission de la Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, c'est d'aider notamment tous les aidants naturels, ceux qui offrent du répit et tout ça. Et nous, ils nous supportent depuis plusieurs années déjà. On a acheté une maison il y a 4 ans parce qu'on avait vraiment besoin d'avoir des espaces adaptés et la Fondation a été un grand donateur pour aider à aménager la maison. Et depuis ce temps-là, ils nous supportent dans différents projets, notamment pour aider les familles à avoir des répits, les camps de répit l'été. Donc, c'est vraiment un partenaire majeur pour nous là, qui a toujours été au rendez-vous quand on avait besoin.
Eh bien, écoutez, on en est très, très heureux pour vous. Et c'est d'ailleurs quand j'ai vu la nouvelle, moi, à un moment donné, passer de ce don, de cette fondation, que je me suis dit, tiens, et ce serait bien de savoir ce qu'est cette maison, les petites lucioles. Vous êtes donc à Québec même, hein, madame?
Oui,
à Québec
nous,
même.
On est au cœur de la ville, dans le quartier Limoilou.
D'accord, le célèbre quartier Limoilou.
Pour toutes nos familles.
D'accord. Oui, Madame Nicole Ouellet, directrice de la maison Les Petites Lucioles à Québec, je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue. Maintenant, on vous connaît mieux et on trouve ça très agréable. Alors, bon camp, bonne journée avec ces enfants-là qui ont bien besoin de vous.
Merci beaucoup, bonne journée.
Au revoir, Madame, merci.
Au revoir.
Aime l'été. Voilà, aime l'été avec. Et là, c'est là qu'on voit que le temps passe vite, parce que c'est déjà sa deuxième chronique. Bonjour, Aube. Aube, ça va?
Bonjour.
Ça va bien?
Bien sûr que ça va bien.
Alors, on est décidément dans le plaisir. On a commencé ça au début de l'émission avec Maxime Despomerleau, qui nous a parlé de sorties à Montréal, de cirque, de danse, tout ça. Aube, avec vous, on va aller sur l'eau.
Eh oui.
Parlez-nous de la voile adaptée.
C'est un organisme que moi, en fait, je ne connaissais pas depuis très longtemps et c'est assez merveilleux parce qu'ils ont une réelle expertise dans le domaine. Et donc, ça fait quand même 21 ans de temps que ça existe. Ils ont 21 ans d'expérience. Donc, ils ont vraiment acquis tous les bons réflexes et ils ont eu le temps de créer toutes les adaptations nécessaires
oui.
pour toucher la population qui ont une incapacité physique ou une combinaison d'incapacité physique et sensorielle. Et c'est donc même également adapté pour des personnes qui sont non-verbales.
OK.
Ouais, donc c'est vraiment très large les personnes qui peuvent avoir l'occasion de faire de la voile adaptée. Et c'est vraiment un contact auprès de l'eau qui est quand même vraiment en belle proximité parce mm-hmm. que ce sont des voiliers monoplaces.
Oui.
Donc, on est vraiment très près de l'eau.
Oui, oui, oui,
c'est
oui.
C'est pas
oui.
les gros voiliers.
Non,
c'est
non,
pas
non.
les gros trucs, là.
Non,
on
n'est
pas
ça.
Sur un navire de croisière, on s'entend.
Non, c'est clair. Alors, donc, vous êtes sur le... Alors, parce que là, évidemment, j'ai 10 000 questions. D'abord, alors ça s'adresse à qui, ça, vous nous l'avez dit. C'est à Montréal et à Sherbrooke aussi, je crois. Hein?
Oui, exactement.
À Sherbrooke, à Montréal, ça s'appelle le Club de voile privée de Pointe-Claire. Hein, c'est là que ça se passe.
Oui, tout
bon,
à fait.
Bon, alors, pour participer... Il faut devenir membre de l'association?
Exactement.
Ah, on ne peut pas arriver comme ça et puis dire...
Non, il faut devenir membre, mais on s'entend, c'est quand même pas très dispendieux, 15 $ par année,
mm-hmm.
donc c'est quand même pas la fin du monde. Et ce qui est merveilleux, c'est que, étant donné que c'est un organisme but non lucratif, ils obtiennent beaucoup de subventions et les subventions leur permettent d'offrir la voile
oui.
à un très bas prix.
Et donc, ah oui?
Oui, mais oui. vraiment, 15 $
$15
Par sortie, on
par
s'entend.
Par sortie, oui.
D'habitude,
oui,
c'est autour de 100 $ là.
Oui.
Donc, d'avoir un service comme ça qui est adapté à si bas prix, moi, je
à
trouve
si
que
bas
c'est
prix,
merveilleux.
Non, c'est vrai. Pendant qu'on est en train de vous régler un petit problème de micro, mais voilà, c'est fait. D'ailleurs, j'ai l'impression que le mien est aussi à l'envers. Bon, enfin, ça, c'est pas grave. alors, on s'en... Non, mais il y a des journées comme ça où il fait nuit. Il y a des jours où il fait nuit, et puis c'en est une comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, donc, une fois qu'on s'inscrit, après, on peut se pointer là-bas directement? Comment ça se passe?
Pour la première fois, il faut prendre un rendez-vous.
Ah, d'accord.
Pour être évalué par un ergothérapeute.
Oui.
Qui va déterminer un peu c'est quoi vos capacités et vos incapacités.
Oui, bien sûr.
Et déterminer quelles seront les adaptations nécessaires
d'accord.
pour que vous puissiez faire de la voile.
OK, d'accord. Parce que est-ce qu'il y a des personnes handicapées qui ne pourront absolument pas faire de la voile? Est-ce qu'il y a des problèmes physiques? Ou est-ce que, parce que d'après ce que je lis,
non.
même les personnes, c'est ça, hein, tétraplégique,
non.
tout le monde peut en faire.
Vraiment. C'est pour ça que je trouve que c'est vraiment merveilleux.
Eh, quel bonheur.
Ah oui, mais c'est vraiment sensationnel. On s'entend, là, comme je l'ai dit plus tôt, il faut avoir une incapacité physique
bien sûr,
pour le faire.
Bien sûr.
Mais une personne qui est tétraplégique, il y a une adaptation au sein du bateau qui fonctionne avec des petites pailles et donc on insuffle, je ne sais
oui.
plus exactement de quelle façon, mais c'est la manière de contrôler le
wow.
bateau.
Ah
donc,
oui, hein?
Oui. Donc une personne qui n'a aucun mouvement de ses membres
bien sûr,
peut le faire.
Bien
donc,
sûr.
C'est vraiment merveilleux.
Mais comme M. Dallaire, d'ailleurs, qui est à l'origine de ça.
Tout à fait, tout à fait. C'est lui qui a fondé
oui.
ça en 1996.
Oui.
Et puis, lui, il avait découvert ça en Colombie-Britannique, où ça existait déjà depuis quelques
oui.
années.
Oui.
Il a ramené ça ici. Et puis, mon Dieu, merci
et
beaucoup.
Et il navigue assez régulièrement, monsieur Dallaire.
Ah oui, je pense que c'est un passionné.
C'est un passionné, hein, pour ne pas dire un fou furieux, d'ailleurs. Il nous en avait parlé. Non, mais c'est vrai, de la voile. Un jour, il nous en avait parlé, d'ailleurs, au Par Actualité. Et je dois vous dire qu'on va, on va l'inviter prochainement. Il va nous raconter un petit peu tout son parcours avec lui. On ne parlera pas de voile. On l'évoquera sûrement, mais on va surtout évoquer tout le parcours de cet homme-là qui est quand même assez, assez fantastique. Alors, quelles sont les adaptations qui sont apportées?
Oh mon Dieu! Il y en a plusieurs. Bon,
allez-y.
Déjà, pour accéder au bateau, il y a
oui.
une rampe.
Oui.
Il y a aussi des escaliers pour les personnes qui sont à mobilité réduite, mais on s'entend, une personne qui fait de l'arthrite, par exemple, n'est pas nécessairement en fauteuil roulant, mais elle a le droit de participer à la voile.
Oui.
Parce que c'est quand même une incapacité physique, donc il n'y a pas besoin d'avoir un énorme handicap physique, mais il faut quand même qu'il y en ait un. Et donc, il y a un lève-personne qui permet de transférer les gens du quai au bateau en toute sécurité. Donc ça, c'est la raison pour laquelle c'est vraiment génial.
Épatant.
Ben oui, parce que d'ordinaire, on pense aux lève-personnes pour passer du lit au fauteuil.
Ouais, oui.
Quelque chose
ouais,
qui
oui.
est beaucoup plus Mais pourquoi pas l'utiliser ailleurs?
Mais exactement, et pour faire du sport, pour bouger, pour en profiter,
oui,
etc. Si
on sait le bien que ça fait d'aller sur l'eau.
Mais c'est ça. Alors, j'imagine aussi que dans ces voiliers-là, d'ailleurs, il y en a combien de ces voiliers-là? Ils sont combien en tout à être amarrés?
Il y en a quatre qui sont amarrés, mais ils en possèdent 7
en tout. Oui. Bon, et j'imagine que le siège est évidemment spécial.
Oui, ils ont conçu un siège spécifique pour aider les personnes. Et c'est un siège qui permet justement qu'une personne qui n'a pas de maintien de son tronc puisse être stable et bien droite dans le bateau. Donc, il y a des espèces de coussinets, il y a des courroies pour maintenir la personne en place.
Un appui-tête, il y a tout ça.
Exactement. Et comme c'est un bateau qui est non chavirable, il n'y a aucun danger.
Il est non chavirable, c'est ça.
C'est très important de le mentionner.
Ben oui, bien sûr.
Parce que si on était attaché dans le bateau le bateau chavire, on s'entend qu'on se noie.
Non, ça c'est clair, c'est clair. Et ça, il me l'avait bien dit, hein, Monsieur Dallaire, parce que je lui avais dit, mais enfin, comment un bateau peut-il être non chavirable? On disait du Titanic qu'il était insubmersible.
Ouais, ben là, j'espère que...
Je voudrais pas être... Non, mais je voudrais pas créer une dépression, une commotion. Mais vous savez, un malheur... Non, mais très sérieusement, vraiment, lui, il m'a dit, de toute façon, en plus, on ne va pas s'épivarder dans l'océan. Là, on s'entend qu'on reste vraiment sur un plan d'eau très stable,
oui,
très
c'est
bon.
C'est ça, exactement. Voilà. Donc, il ne faut vraiment pas s'inquiéter. Voilà. Là.
Alors, la barre, elle est munie, hein, parce qu'elle aussi, elle est spécifique
pour manier le bateau. Oui, exactement. Pour les gens qui n'ont pas de force au niveau des membres supérieurs, il y a une barre qui se contrôle par une petite manette.
D'accord.
Donc, ça permet à la personne de contrôler également le bateau de cette manière-là. Donc, il y a la paille, il y a la manette. Donc, vraiment, tout le monde peut en profiter.
Vous l'avez essayé, vous?
Non, mais j'ai presque pris un rendez-vous.
Pourquoi presque?
Ben, parce
amenez-moi un téléphone. On fait ça tout de suite.
Ben, il faut concorder un petit peu l'horaire avec mon copain.
Oui,
hein,
ben
c'est
oui,
lui qui a la
comprends.
Voiture.
Ah oui, c'est vrai. Oui, d'accord.
Voilà.
Ah, bon, est-ce que vous voulez un petit mot pour le copain? Alors, bon, écoutez. Alors, il nous reste presque un tout petit 2 minutes, chère Anne. Alors, c'est évidemment récréatif, hein, parce que là, on s'adresse vraiment à tout le monde. Vous l'avez dit. On est toujours accompagné par un instructeur?
Toujours.
Donc, évidemment, vous n'êtes pas seul dans le bateau, on s'entend. C'est offert aussi à des groupes?
Oui, c'est offert à des groupes, c'est offert à des enfants. Et il y a plusieurs programmes auxquels on peut participer. Donc là, je viens de parler du programme récréatif.
Oui.
Mais il y a également aussi donc un programme pour les groupes. Donc, les organismes à but non lucratif, les associations peuvent justement participer. C'est un groupe de maximum de 8 personnes.
D'accord.
Mais on s'entend, c'est comme c'est des voiliers monoplaces, le groupe de 8 va faire l'expérience, mais seul.
Ben non,
on n'embarquera pas à 8 sur le bateau.
Non, évidemment, on l'aura compris. Il y a un volet apprentissage, en anglais d'ailleurs, parce que c'est parfaitement bilingue. Hein.
Oui.
On peut se faire servir dans les deux langues.
Dans les deux langues, bon, parfait. On est à Pointe-Claire aussi.
Oui, ben oui, exactement. Et oui, ça c'est vrai. Et puis, quoi d'autre? Est-ce qu'il y a des courses?
Oui.
Oh!
Oui, il y a des courses. Et puis ça, c'est super chouette parce qu'il y en a une qui va avoir lieu prochainement, le 29 et 30 juillet, la Coupe du Québec. Donc, c'est la régate annuelle de l'Association de voile adaptée.
D'accord.
Et tout le monde peut y aller pour assister aux courses. Ça, c'est entièrement gratuit. Tout le monde est le bienvenu.
À Pointe-Claire, donc.
À Pointe-Claire, exactement. Et puis, j'en profite pour lancer un appel aux bénévoles. Ils ont vraiment besoin d'aide pour accueillir les gens et tout. Donc, quiconque est intéressé, n'hésitez pas à les appeler.
Ben oui. Alors, donc, on l'a dit, des frais très bas, 15 $. Il y a des levées de fonds parfois. Et là, je vois que même la Fondation Martin Matt a permis à cette association-là, pas facile à dire ça, de se procurer un nouveau voilier. Hein?
Oui, exactement. Donc, c'est vraiment génial, un voilier tout neuf.
Et d'aménager une nouvelle salle de bain adaptée. Une, c'est bien. Deux, c'est encore mieux.
Hein? Voilà, exactement.
Anne Savard, c'est un plaisir de vous entendre nous parler de toutes ces choses qui sont faisables à Montréal ou en tout cas pas loin, et même en région. À un moment donné, je suis convaincue que vous allez arriver avec un sujet aussi régional. C'était Anne Savard, mesdames et messieurs, qui était là pour vous aujourd'hui à l'émission Aime l'été. Bonne journée, Anne.
Merci.
À bientôt.
feira nas casas Bahia. Mama África tem tanto que fazer, além de cuidar neném, além de fazer denguinho, filhinho tem que entender. Mama África vai e vem, mas não se afasta de você. De casa, seus filhos, seu lodunzão, rola o maior jazz. Mama tem calo nos pés, mama precisa de paz, mama não quer brincar mais.
Filhinho dá um tempo, é tanto bom dar tempo, o ritmo de vida de mama.
Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia.
Deve ser legal, ser negão no Senegal. Deve ser legal, ser negão no Senegal. Deve ser legal. Deve ser legal, ser negão no Senegal.
Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira.
Essor 2, c'est un service spécialisé de main-d'œuvre pour les personnes handicapées installé à Joliette dans Lanaudière. Et pour la deuxième fois, durant cet été à M l'été, je vais accueillir Manon Boisvert. Bonjour, Madame Boisvert.
Bonjour, Madame Seille.
Vous allez bien?
Je vais très bien, merci.
Madame Boisvert, qu'est-ce qui fait qu'une personne avec ou sans handicap, va devenir un bon employé? Qu'est-ce que c'est d'abord qu'un bon employé? Parce que je voudrais quand même rappeler qu'Essor 2 existe pour permettre l'employabilité notamment de personnes qui vivent avec un handicap. Hein. Alors, et là je me disais, mais au fait, qu'est-ce que c'est déjà qu'un bon employé? Parce que c'est pas parce qu'on n'est pas handicapé ou parce qu'on est handicapé qu'on va pas faire un bon employé.
Non, exactement. Un bon employé, je pense que c'est quelqu'un qui est motivé, qui est compétent dans le travail qu'il a à faire.
Qui est sérieux.
Oui, qui est sérieux et qui va être ponctuel. Donc, c'est ce qu'on travaille beaucoup avec la clientèle. Mais
voilà.
Ce qu'on dit souvent, c'est que la personne qui est au bon endroit, dans le bon poste, ben, il sera motivé et il sera ponctuel parce qu'il sera content de rentrer travailler. Donc, on travaille beaucoup là-dessus, nous, avec la clientèle.
Alors, quand vous dites que vous travaillez beaucoup là-dessus, qu'est-ce que vous voulez dire exactement?
Ben, oui, ce qu'on veut dire, dans le fond, c'est qu'on travaille beaucoup au niveau des compétences, de voir avec la personne quelles sont ses compétences. Des fois, les personnes arrivent dans nos bureaux, ils ne les voient pas tellement non
c'est
plus
ça.
Leurs compétences. Donc, c'est de travailler avec eux à les voir, les développer aussi, mais de connaître leurs compétences et leurs intérêts aussi.
C'est ça, exactement. Et leurs talents naturels, peut-être.
Oui, c'est parce... ça. On a tous des talents naturels.
Mais oui, mais oui.
C'est ça, c'est de les mettre en valeur et de trouver un employeur là, qui peut offrir un poste qui va convenir justement là, à la personne et qui va répondre à ses compétences.
Le problème, hein, souvent, c'est que ça fait peur. On a l'impression qu'une, je sais pas, qu'une personne en fauteuil roulant, à un moment donné, elle va retomber malade ou je sais pas quoi. En tout cas, quels sont les principaux arguments des employeurs pour encore avoir du mal à engager des personnes handicapées?
Ben, moi, je pense que ce qu'on voit, c'est souvent par manque de compétences. Là, c'est qu'on parle, mm-hmm. on va parler, bon, au niveau, par exemple, des syndicats, que c'est plus difficile ou tout ça.
Oui.
Mais quand on leur explique aussi les forces de la personne et quelles sont les capacités qu'elle a, qui pourraient être bénéfiques pour son entreprise, dont mm-hmm. la stabilité en emploi. Hein.
Ben oui.
On sait très bien là, que c'est le mouvement de personnel qui coûte très cher aux employeurs. Donc, une personne qui est motivée, avec laquelle on a ciblé là, les compétences et qu'on a trouvé le bon poste, ben, elle va être stable, elle ne cherchera pas à tout le temps changer d'emploi parce qu'elle sait que déjà, c'est déjà plus difficile pour elle souvent de trouver un emploi. Donc, on va parler beaucoup de stabilité. Là,
oui, et est-ce que c'est prouvé, ça, Mme Boisvert, que les personnes en situation de handicap sont des gens fidèles à leur travail, fiables?
Nous, on le voit beaucoup là, au niveau de notre clientèle.
Oui.
Oui, parce qu'elles sont, c'est sûr, quand elles trouvent l'emploi qui leur convienne, c'est sûr que si ça peut arriver aussi que la personne se rencontre après quelques mois à l'emploi, que ça convient pas et à ses compétences, mm-hmm. ou ça lui amène trop d'anxiété, là, on va lui conseiller de changer d'emploi. Mais en général, quand on a bien travaillé avec la personne et qu'on a bien ciblé les forces et que l'employeur nous a bien décrit les tâches que la personne aura à accomplir et dans quel environnement. Mmh. À ce moment-là, c'est plus facile là, pour nous d'aider la personne et pour la personne de s'attendre,
bien
de
sûr.
Savoir à quoi s'attendre quand elle va rentrer en poste.
Alors vous, quel est votre rôle? Vous créez le contact entre l'employeur désireux d'avoir un employé handicapé et est-ce que vous créez le contact d'abord sans la personne handicapée puis ensuite vous créez la rencontre? Comment ça se passe?
Nous, ça dépend vraiment de la personne, de ce qu'elle veut aussi.
Okay, bien
et
sûr.
De ses capacités. Il y a des personnes
d'accord.
qui vont être capables, on va travailler avec eux dans nos bureaux, des simulations d'entrevue. Et
ah là, oui, vous faites ça aussi.
Oui, on fait tout ça. Mais si la personne est très autonome dans sa démarche de recherche d'emploi, ben, mm-hmm. on va lui préparer son CV et elle va... faire une partie là, de sa démarche par elle-même. Et par contre, il y en a d'autres justement avec qui pour qui on va appeler des employeurs
mm-hmm.
et parler justement des forces, parce que les personnes des fois ont de la difficulté à se vendre.
Oui.
Et donc c'est ça, c'est vraiment du cas par cas, mais oui, on va appeler des employeurs. Et il y a aussi des employeurs qui nous appellent pour nous dire bon, on a tel poste à offrir qui est libre dans notre entreprise.
Mm-hmm.
On serait intéressé à embaucher quelqu'un chez vous. Mm-hmm. Et nous, on fait une présélection. Là,
d'accord.
Qui pourront répondre. Là,
d'accord.
Oui,
est-ce que vous démarchez directement auprès d'employeurs qui n'engagent pas encore de gens dans la communauté des personnes handicapées?
Oui, oui, on fait beaucoup de démarchages. Ça a une bonne partie du travail de nos conseillers en emploi. Là. Par exemple, si un client vient dans nos bureaux et qui veut, par exemple, occuper un poste de technicien en informatique,
mm-hmm.
et puis qu'il habite à Notre-Dame-des-Prairies, ben, on va essayer de voir avec lui, on va démarcher, on va regarder les employeurs qu'il y a,
ouais.
qui offrent des postes comme ça. Et on va faire du démarchage pour voir si la personne, l'employeur est intéressé à embaucher. Là, s'il y a des postes disponibles et tout ça.
Mmh. Et si l'employeur vous dit non catégoriquement, est-ce que vous refermez la porte et vous dites, bon, allez, lui, on l'a perdu pour la cause pour l'instant, ou est-ce que vous forcez un petit peu?
Ça dépend du nom, là, c'est sûr
oui.
que c'est, il nous raccroche la ligne au nez. Mais oui, on va forcer,
oui.
on va essayer un peu
oui.
De lui poser des questions s'il a déjà embauché. Parce que des fois, ils vont dire non parce qu'ils ont vécu des mauvaises expériences aussi.
Bien
donc,
sûr.
On essaie de voir avec eux... Là,
quel genre de mauvaises expériences?
Ils peuvent avoir vécu et pourquoi pourquoi ils ne sont pas intéressés. Mais c'est très rare que les personnes vont dire des noms catégoriques.
Là. Non, OK. Non, parce qu'il faut quand même... Je veux dire, une personne est une personne, qu'elles sont handicapées ou non. Donc, ça peut ne pas marcher, effectivement. Mais enfin, ce n'est pas pour ça que ça en fera une mauvaise expérience. Ils auraient pu avoir la mauvaise expérience avec une personne non handicapée. Hein.
Ben, exactement. Là, c'est pour ça. Là. Et ça pourrait être discriminatoire aussi.
Bien sûr.
Que l'employeur réponde tout de suite non.
Bien sûr,
ça, ils vont être un peu plus... ils vont se montrer un petit peu plus ouverts en général. Là.
Madame Boisvert, vous êtes à la Naudière, à Joliette, mais est-ce que des gens qui nous écoutent peuvent aller auprès de vous, des gens qui voudraient trouver un emploi et qui n'habiteraient pas dans la région, est-ce que vos portes sont ouvertes?
Non, malheureusement, comme on a une entente avec Emploi Québec pour desservir seulement la clientèle de la Naudière, les personnes doivent habiter sur notre territoire. Par contre, ils peuvent se référer au ROSEF. Il y a des services spécialisés comme le nôtre dans chaque région du Québec.
D'accord.
Et le ROSEF est le regroupement des services spécialisés. Donc,
d'accord.
Une personne d'un autre territoire peut aller vérifier soit sur Internet ou s'informer là au niveau du ROSEF.
Parfait.
Voir quel service là, est présent dans sa région.
ROSEF comme R-O-S-E-F?
Non, R-O-S-E-P-H.
Ah ben oui, PH comme personne handicapée, bien sûr.
Exactement.
D'accord, bon ben je suis contente de vous avoir posé la question, parce que peut-être que d'autres auraient fait la même erreur. Alors, merci beaucoup, Manon Boisvert, d'avoir répondu à mes questions. Et puis, je vous dis à une prochaine fois sur nos ondes.
Oui, je vous en prie, Madame Seille.
Allez, au revoir, bonne journée.
Au revoir.
1, 2, 3, 4! Je t'ai donné mon coin de ciel, tu m'as donné ton cœur de miel, et nous sommes depuis tous les deux sur l'étrange route des amoureux. Si la vérité sort de nos yeux, nous jouerons les imbéciles heureux, exhibant nos rêves faussement pieux sur l'étrange route des amoureux. Mais gardons nos caresses pour que, quand le temps nous blesse, nous puissions combler tous les deux de nos corps l'appétit copieux. De ciel, j'ai massacré ton cœur de miel. Depuis que nous sommes tous les deux sur l'étrange route des amoureux, la vérité a brûlé nos yeux. C'est l'insolence des moments heureux. On se sent tout à coup bien trop vieux pour l'étrange route des amoureux. Mais gardons nos promesses, puisque quand la vie nous blesse, nous devons combler tous les deux de nos espoirs l'appétit copieux. Je t'ai donné mon coin de ciel, tu m'as donné ton cœur de miel, et nous sommes depuis tous les deux sur l'étrange route des amoureux.
Faut-il présenter Pierre Lapointe sur Canal M et l'émission M l'été? Nous avons quelques petites minutes, alors tant mieux parce que j'ai quelques nouvelles en rafale à vous proposer. Par exemple, celle-ci, service gratuit pour femmes, ça c'est publié par De Soi à l'emploi. Si certaines femmes éprouvent le besoin de faire quelque chose pour elles-mêmes afin de réintégrer le marché du travail, De Soi à l'emploi peut les aider. Pour les femmes qui mettent en doute leur potentiel, pour des femmes qui ont le désir de se repositionner face à leur projet de vie personnelle et professionnelle, ce service s'adresse particulièrement aux femmes et à leurs préoccupations. Alors les femmes qui sont chefs de famille monoparentales, les femmes qui manquent de support de leurs proches, celles qui manquent de formation et vivent de l'isolement, celles qui sont sans emploi ou qui vivent avec un emploi précaire, et ça malheureusement on sait que ça arrive beaucoup avec les personnes qui vivent avec une limitation. Alors De Soi à l'emploi est situé à Saint-Lambert, aux limites de la ville de Brossard. et de Soi à l'emploi offre un service d'orientation gratuit pour ces femmes sans emploi. Il s'agit d'une démarche de 13 semaines qui inclut un stage de 4 semaines en entreprise. L'admission va se faire le 5 septembre 2017. Il faut faire vite parce que les places sont limitées. Alors Lise Courtemanche, c'est son nom, attend votre appel pour vous inscrire à une rencontre d'accueil. Et on peut joindre Madame Courtemanche dans le 450-465-4078. Vie autonome, c'est un rappel. N'oubliez pas de vous inscrire à notre sortie du Club des Gourmands au restaurant à la Station des Sports. C'est le temps de prendre une pause, allez, et de venir partager un bon repas en bonne compagnie. Ce sera le jeudi 27 juillet de 12h à 14h à la Station des Sports au 862 rue Sainte-Catherine-Est à Montréal. Le coût, oh, c'est vraiment pas cher. Le prix des plats varie entre 5 et 20 $. On peut s'inscrire jusqu'au 17 juillet en contactant Kim Joly, J-O-L-Y, au 514-288-1177. 54-288-1177. Voilà, c'était M l'été, animé pour vous par Clotilde Sey. Je remercie tous mes invités d'aujourd'hui, puis aussi toute l'équipe qui collabore et qui travaille fort cet été pour réaliser cette émission avec vous, notamment Maurice Bolduc, Christiane Campagna, Louise Vien et Sylvie Rivard. Merci à toutes et à tous et je vous dis à demain midi.